BW. Magazine Santé.
Bonjour à toutes et à tous. On démarre une nouvelle série cette semaine consacrée à la gestion des épidémies. Actualité oblige. Et pour ce premier numéro, nous nous intéressons à ce qu'est une épidémie, tout simplement. Et puis nous verrons aussi quels sont les moyens de lutte disponibles, avec l'exemple du Cameroun, un pays qui se bat depuis plusieurs années contre le choléra. C'est Constance Fischer au micro. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre magazine Santé. Ça y est, le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus Covid-19 a dépassé les 100 000 personnes dans le monde. Plus d'une centaine de pays sont touchés. Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé ne parle pas encore de pandémie que l'on peut définir comme une épidémie qui est devenue mondiale. Pourquoi et comment faisait le monde pour lutter contre les épidémies avant l'existence de l'OMS? Élément de réponse avec Tamara Gilles-Vernick. Elle est responsable de l'unité anthropologie et écologie de l'émergence des maladies à l'Institut Pasteur à Paris.
À la fin janvier 2020, l'OMS a désigné cette épidémie de coronavirus une urgence de santé publique de portée internationale. Cela veut dire qu'il y a un risque international qui exige probablement une coordination d'une réponse internationale. En ce qui concerne une épidémie, c'est vrai que la transmission existe de point de vue international, de point de vue global, mais à la fois, il n'y a pas une transmission très élevée simultanée du monde entier. Et donc, je pense que pour eux, c'est la raison qu'ils n'ont pas désigné cette épidémie une pandémie. À la fin, je pense qu'il y a un côté politique. Cela veut dire que le moment qu'on dit que c'est une pandémie, ça pourrait potentiellement déclencher une panique. Et en même temps, il y a les souvenirs de H1N1 en 2009 où c'était désigné une pandémie. Et en fait, l'OMS a été assez critiquée pour avoir étiqueté cette épidémie une pandémie. Donc, je pense qu'il y a des considérations, bien sûr, épidémiologiques, mais en même temps, je pense qu'il y a un côté important politique qui influence la désignation d'une épidémie au lieu d'une
pandémie. D'une maladie, oui. Comment était géré ce genre de crise sanitaire avant la création de l'Organisation mondiale de la santé, qui remonte, je crois, à 1948?
En fait, ça date à 1851. Et ça, c'était l'année où il y a eu la première conférence sanitaire internationale pour aborder le problème de choléra. Il y avait une dizaine de conférences entre 1851 et 1891. Il y a eu à peu près, je pense qu'il y avait une douzaine d'États européens qui voulait effectivement contrôler non seulement Europe, mais aussi des intérêts impériaux. Et donc ça, c'était une étape très importante dans le contrôle des épidémies. Au fur et à mesure, c'était élargi pour contrôler la fièvre jaune, la peste. Et ça faisait partie de la promotion des intérêts impériaux. À partir de cela, il y avait deux autres instances, l'Office international d'hygiène publique, qui était fondé à Paris en 1907, et un peu plus tard, en 1919, l'Organisation d'hygiène de la Société des Nations. Et donc, c'était effectivement des instances qui ont réuni des différents pouvoirs européens et internationaux pour protéger des populations des épidémies et de répondre aux épidémies.
Est-ce que vous avez l'impression que par rapport à cette gestion dans le passé des épidémies, à l'époque où c'était peut-être moins centralisé aussi. Est-ce qu'il y a des enseignements qui perdurent aujourd'hui, ou est-ce que aujourd'hui vraiment la façon dont on gère les épidémies et peut-être aussi dont on organise la recherche contre les maladies, la manière de trouver des ou de faire des recherches sur des vaccins, est-ce que vraiment ça n'a plus rien à voir aujourd'hui?
Non, je pense qu'en fait, ce qui est très intéressant de point de vue historique, c'est l'utilisation de isolement, de quarantaine, de point de vue historique, ce sont des gestes et des politiques qui ont été utilisées depuis des siècles en fait. Presque les mêmes débats. Par exemple, tous les débats autour, par exemple, de la fouille des populations, du fait qu'ils vont faire d'autres choses et potentiellement transmettre cette maladie, ça c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois avant. Il y a également ces questions économiques et politiques. Par exemple, le grand public critique beaucoup des gouvernements, soit d'agir un peu trop ou soit de ne pas agir. Le problème des gouvernements de montrer qu'ils font quelque chose, même quand il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Bon, je pense qu'il y a une pression économique aussi de continuer des activités économiques. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est nouvelle.
Et malgré tout, aussi, ce qui n'est peut-être pas nouveau, c'est la façon aussi dont réagissent les populations. C'est une sorte de cercle vicieux un peu.
Effectivement, c'est une fait comme un révélateur de la confiance que les citoyens ont au gouvernement. Cela veut dire que s'il y a effectivement une ouverture de la part du gouvernement de bien communiquer, de cultiver la confiance de la part de la population, ça se passe relativement bien. Ailleurs, où il y a la panique, je pense que ça indique quelque chose. C'est une sorte de fenêtre des rapports entre le gouvernement et ses peuples.
Vous écoutez le magazine Santé sur les ondes de la Deutsche Welle. Ces deux dernières années, le Cameroun a enregistré près de 2000 cas de choléra. Une centaine de personnes en sont mortes, selon le ministère de la Santé. Alors que la guerre dans les régions anglophones perdure, l'insalubrité et les difficultés que pose l'accès à l'eau potable favorisent la propagation de cette maladie. Plus de précisions avec Elisabeth Hassen, notre correspondante à Yaoundé.
Depuis 2018, le Cameroun fait face à une épidémie de choléra. Le centre, le nord, l'extrême nord, le littoral et le sud-ouest sont les régions qui ont été les plus touchées. Rendues à ce jour, deux des régions citées, le sud-ouest, touché par la crise anglophone depuis 3 ans, et le littoral, continuent d'enregistrer les cas de choléra. Dr Linda Esso est médecin épidémiologiste et sous-directeur de la lutte contre les épidémies et pandémies au ministère de la Santé publique au Cameroun.
Depuis le début de l'année 2020, notamment depuis le 4 janvier, la région du littoral, quand je dis la région du littoral, c'est la ville de Douala, le district de santé de Manuka et aussi, dans une moindre mesure, le district de santé d'Eteya, ont enregistré 198 cas de choléra avec 13 décès. Ça fait un taux de létalité de 6,5%. Les mesures de contrôle sont prises par le ministère de la Santé publique pour pouvoir venir à bout de cette épidémie, notamment en termes de renforcement de la surveillance épidémiologique afin que les premiers cas soient rapidement détectés et pris en charge rapidement avec la mise en place des centres de traitement de choléra et la mise à disposition des intrants pour la prise en charge adéquate et rapide des cas.
Les victimes enregistrées sont prises en charge dans les centres hospitaliers et les mesures de riposte épidémiologique assurées. Mais malgré cela, les risques de voir le choléra s'étendre dans les autres régions du Cameroun sont grands. Docteur Linda Esso.
Le Cameroun, en général, est à risque de choléra. Nous sommes même, je dirais, dans une zone d'endémie de choléra. Le choléra, c'est d'abord un problème de développement. Tant que nos populations n'ont pas accès au minimum à l'eau courante, à l'eau potable, les mesures d'hygiène et de salubrité, c'est un problème systémique. Donc, c'est un problème de développement, en fait. C'est dans ce cadre-là, donc, que l'OMS a préconisé une feuille de route pour l'élimination du choléra d'ici à 2030, dans laquelle le Cameroun est impliquées.
Le ministère de la Santé a rappelé aux populations des mesures qui les mettraient à l'abri du choléra. Manger des aliments bien cuits et chauds, se laver les mains avant les repas et au sortir des toilettes, rendre l'eau potable avant de la boire et éviter de se soulager à l'air libre. Des mesures qui ne sont pas toujours suivies. Quartier Briqueterie à Yaoundé, un coin réputé pour sa forte population. Ici, plusieurs familles, comme partout au Cameroun, se procurent de l'eau dans des puits. Ahmed habite le quartier.
Ce puits ravitaille tout le quartier. On la boit, on fait la lessive, on fait la vaisselle. Cette eau nous permet de faire tout ce qu'on veut.
Est-ce que vous pensez que cette eau est potable?
Ah, on la boit, Dieu nous a gardé jusqu'à maintenant. On n'a pas de maladie, il n'y a pas de problème.
La transmission du choléra est liée à un accès inapproprié à l'eau potable et à des installations sanitaires douteuses. Dans certaines villes au Cameroun, la construction des latrines n'est pas la priorité de beaucoup. Et comme le pays compte parmi les États où les services d'assainissement laissent à désirer, cela reste un défi à relever et ce, avec le concours de toutes les parties prenantes.
Il s'agit pour toutes les sectorielles impliquées dans la lutte contre le choléra de s'engager fortement pour que d'ici à 2030, on n'ait plus de cas de choléra au Cameroun. Donc ce n'est pas que le ministère de la Santé. Vous avez tellement de secteurs qui vont entrer dans la marche pour le développement pour que d'ici à 2030, on est vraiment zéro cas de choléra au Cameroun.
Zéro cas de choléra en 2030 dans le monde, c'est l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Le Cameroun est fortement interpellé à s'investir davantage pour s'arrimer à cette résolution de l'OMS, surtout que le problème d'eau potable perdure. Elisabeth Hassem, à Yaoundé, pour la Deutsche Welle.
C'est déjà la fin de cette émission. La semaine prochaine, sur nos ondes, Carole Assignon vous parlera plus précisément du coronavirus et de la façon dont s'organise la lutte. Et en attendant, rendez-vous sur notre site internet dw.com/français, rubrique médiathèque, pour retrouver tous les magazines santé à télécharger. Restez en pleine forme et à l'écoute de la DW.